Et notre invitée ce matin, Martine Roland, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Merci d'avoir accepté l'interview d'Alpe 1. C'est un honneur que de vous recevoir. On va préciser que vous avez sorti aux éditions Glénat le livre Première de Cordée. Votre histoire, elle est intimement rattachée aux Hautes-Alpes. Créez-vous, par exemple, puisque avec votre mari, vous avez été gestionnaire de la station en 1971. Vous avez d'ailleurs créé certaines pistes de ski de fond que l'on connaît encore. À Briançon, où le milieu de l'escalade vous connaît aussi. Le gîte de Tournou à Puy-Saint-Vincent, c'est aussi vous. Mais votre histoire, plus particulièrement, elle est prise en exemple aujourd'hui, puisque vous êtes la première femme guide de haute montagne en Europe. C'était en 1983. C'était hier.
Oui, enfin, disons, c'est vieux déjà. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Mais bon, c'est vrai que c'était une victoire en soi pour les femmes, parce que jusqu'à présent, aucune femme n'avait pu réussir l'examen de guide de haute montagne.
Et on va en parler bien évidemment de cette histoire, l'histoire d'une pionnière de la montagne. Pourtant, vous êtes un petit peu la femme du paradoxe dans cette recherche de liberté et de sensation. On va préciser que vous êtes née à Amplepluie, que je connais très bien, qui est dans la région lyonnaise. Alors, aucun rapport avec les montagnes, là, pour le coup. Mais quand je dis quand vous êtes la femme du paradoxe, c'est que votre passion initiale, c'était le saut en parachute. Et alors là, vous allez vraiment perdre beaucoup d'altitude pour en regagner après. Et c'est votre mari qui va conduire à une autre passion de l'altitude.
Oui, c'est exact. Bon, quand j'étais adolescente, tout ce qui me plaisait, c'était autour des avions et du parachute. Et mon rêve, c'était de faire du parachute, de faire de la chute libre. Et dès que j'ai eu 18 ans, bon, ben je m'y suis lancée à plein. Mais, disons, rapidement, j'ai rencontré mon futur mari. Et lui, il montait. Il ne descendait pas, mais il montait. Et voilà, il a fallu que je m'adapte. Bon, je me suis vite rendu compte que c'était difficile de suivre les deux passions en même temps. Donc vraiment, c'est devenu pour nous une passion commune. On s'est lancé dans l'alpinisme, l'escalade, le ski. C'était déjà ce qu'aimait mon mari. Il était déjà aspirant guide quand je l'ai connu. Donc voilà, on a passé les premières années de notre mariage à courir les montagnes et à faire des grandes courses ensemble.
Et vous l'écrivez très bien, la passion de la montagne est devenue pour vous deux une manière de vivre, complètement déjà une manière de vous découvrir et puis une manière de vivre ensuite.
Oui, exactement. De toute façon, c'était quelque chose qu'on vivait ensemble, tous les deux. Bon, on partageait tout, on partageait les gros sacs, les bivouacs difficiles, le mauvais temps. Et puis, au fil des courses, bon, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais envie, de conduire un peu la cordée, parce qu'au début, c'était quand même mon mari qui m'emmenait, qui m'a tout appris. Mmh. Et moi, petit à petit, je sentais que je commençais à avoir un bon niveau et que j'avais envie, moi aussi, de participer pleinement à la cordée. Donc, oui. C'est ça qui, finalement, au bout d'une dizaine d'années, m'a donné envie d'aller vers le guide de haute montagne, d'en faire mon métier.
Ouais, et c'est en Espagne que vous avez fait l'expérience de grimper pour la première fois en tête, et vous l'écrivez, je me rends bien compte que j'ai de la chance de pouvoir grimper en tête, parce que dans tous les couples que nous rencontrons, la femme est toujours en second.
Oui, alors ça c'est une époque, je pense. Bon, disons que ça fait une cinquantaine d'années, tous les couples qu'on connaissait autour de nous, bon, ben, la femme, elle n'est jamais en tête. C'était le mari ou le compagnon qui prenait toute la charge de la cordée, et surtout, il ne voulait pas que ça soit sa femme qui s'en occupe. Alors que c'est vrai qu'avec mon mari, bon ben, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a quand même poussée à devenir plus indépendante. Lui, il savait aussi que le fait que je sois, que j'ai un bon niveau, ça pouvait aussi peut-être nous sauver la vie, parce que bon, lui, il n'était pas immortel et il pouvait y arriver un problème. Donc il fallait que moi aussi, je sois capable d'assurer toute la vie de la cordée.
Et elle vous pousse même donc en 79, où vous décidez de vous lancer dans ce nouveau challenge, c'est-à-dire réussir l'examen de guide de haute montagne, alors qu'aucune femme n'avait réussi. Certaines l'avaient tenté, certaines sont allées un peu plus loin que les autres, mais aucune n'avait réussi. Pourquoi autant d'échecs à l'époque
Alors, je pense que c'est c'était un barrage psychologique de la part du milieu guide. Bon, faut reconnaître qu'à cette époque, il y avait beaucoup. C'était surtout Chamonix qui était le phare de l'alpinisme et beaucoup de guides étaient originaires de Chamonix. C'était d'ailleurs soit des gens qui avaient le métier d'agriculteur plus ou moins et qui faisaient ça l'été. C'était une époque où il commençait à y avoir quand même des jeunes des villes de Paris, de Marseille, de Grenoble qui étaient tentés par cet examen et qui avaient envie d'aller en montagne, d'en faire leur métier. Mais comme je disais avant déjà, de toute façon, il y avait très peu de femmes qui étaient capables, qui avaient un niveau pour aller passer le guide. Donc ça s'explique aussi. Oui. Mais en même temps, je sentais qu'il y avait vraiment un barrage un peu psychologique qui venait du milieu et qui n'était pas prêt à accepter une femme dans cette profession.
Oui, vous avez été, j'allais dire... pas très bien accueilli. Pourtant, vous le dites, hein, vous l'écrivez, passer cet examen n'était pas un combat féministe, mais c'en est devenu un. Vous avez fait face à une montagne masculine extrêmement solide. Votre candidature a été scrutée de près, y compris par les médias qui, visiblement, étaient plutôt bienveillants, en tout cas vis-à-vis de votre candidature à l'époque. D'autres ont été un peu moins bienveillants. Par exemple, René Desmaisons, que l'on connaît très bien, qui a sous-entendu que vous aviez monnayé votre réussite contre des avances. Donc, malgré tout, en fait, vous n'avez pas voulu porter un combat féministe, mais vous avez été l'étendard d'une cause qui vous a dépassé.
Oui, parce que moi, au départ, je voulais en faire mon métier. J'ai pas vraiment réfléchi à l'idée que j'allais être la première. C'était pas le but, mais je voulais vraiment en faire mon métier. J'étais déjà monitrice de ski de fond et je voulais avoir un métier que je pourrais utiliser plus pour l'été. Et puis le ski de randonnée me plaisait beaucoup aussi. Donc j'ai pas voulu être forcément la première, mais je me suis rendu compte que de toute façon c'était ce qui intéressait tout le monde, aussi bien les médias que les professeurs, que tout le milieu montagnard. Il a découvert que je voulais être guide et ça plaisait pas à tout le monde.
Et vous avez réussi. Est-ce que vous avez ouvert la voie à d'autres femmes? Est-ce que d'autres femmes vous ont contacté ensuite pour vous dire finalement j'ai pris votre exemple et j'ai réussi?
Oui, alors bien sûr, de toute façon, je veux dire, ça a quand même beaucoup évolué. Hein. Bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est que j'ai été guide en 1983, c'est l'époque où beaucoup de professions se sont ouvertes aux femmes. Hein. C'était l'époque de Mitterrand, les droits des femmes, etc. Et donc, il y avait toute une ambiance qui était favorable. Bon, après, dans le milieu des femmes, le niveau a augmenté aussi. Et rapidement, il y a d'autres femmes qui ont voulu aussi en faire leur métier. Bon, ça n'a pas été immédiat, mais disons 4 ou 5 ans après, il y en a eu d'autres. Et puis, de plus en plus. Et maintenant, il y a à peu près une quarantaine de femmes qui sont guides de haute montagne en France, peut-être pour 1500 garçons, hein, mais en tout cas, tous les ans, il y en a au moins une ou deux qui sont en formation dans les stages de guide. Donc voilà, c'est quelque chose qui est passé quand même maintenant dans les mœurs.
Bon, en tout cas, dans votre livre, vous le décrivez très bien. Certains vous ont très mal accueilli, c'est ce que je disais, notamment l'un des plus anciens professeurs de l'ENSA, qui vous avait même donné une note éliminatoire qui a été revue. Mais du côté de votre clientèle, le fait que vous ayez été la première femme guide de haute montagne, alors vos premières clientes, je l'ai dit d'ailleurs, c'était des femmes. Donc la cause était toute acquise, mais par la suite, vous avez accompagné des hommes. Est-ce que pour eux, ça a changé quelque chose ou pas?
Alors, bon, peut-être, je sais qu'il y en a qui sont venus un peu, justement, parce que j'étais un peu connue et que, bon, ça leur plaisait de se faire emmener par la première femme guide. D'autres qui disaient, bon, si elle a réussi, c'est qu'elle ne doit pas être si mauvaise. Donc, en fait, il y avait beaucoup de choses différentes dans ce que les gens recherchaient. C'est vrai que la clientèle féminine, ça, c'était le must, quoi. Enfin, parce que elles avaient vraiment envie d'être emmenées par une femme, hein. C'était clair. Et puis, le courant passait bien, le rythme de la course était bien. Voilà, il y avait tout un ensemble de choses qui faisaient que les femmes se sentaient à l'aise avec moi. Et puis, bon, après, j'ai eu plusieurs manières de travailler. Bon, j'ai aussi travaillé beaucoup avec des enfants et avec des adolescents qui préparaient le guide aussi de leur côté, donc dans des clubs. Donc toute cette partie-là du travail aussi, c'était C'était nouveau à l'époque, des enfants petits qui commençaient à grimper, on n'en voyait pratiquement pas. Oui. Les clubs de Briançon, c'était un peu, ils étaient précurseurs là-dedans. Donc après, bon, quand les enfants grandissaient, qui devenaient ados, ben, on les emmenait plus en montagne et puis ils avaient envie de devenir guide aussi. Hein. C'est quelque chose, quand on vit en montagne, ça peut être un but aussi pour les jeunes. Hein.
Votre livre est fabuleux parce que, d'une, votre témoignage est passionnant, et ensuite, il est fabuleux parce que vous nous emmenez dans beaucoup de paysages, Léger, en Suisse, le Verdon notamment, on peut le citer, il y a aussi les Écrins, forcément, dans les Hautes-Alpes, mais pas que, il y a le Pakistan, il y a les États-Unis, tous ces passages que vous avez pu réaliser dans votre pratique. Est-ce qu'il y a certains regrets que vous avez aujourd'hui, certaines ascensions que vous regrettez d'avoir réalisées ou d'autres que vous auriez aimé réaliser?
Alors, je pense que, bon, j'ai écrit ce livre à 70 ans, hein, donc il y a quelques années. Je pense que j'avais derrière moi ma carrière d'alpiniste. Mais c'est vrai que, bon, j'ai à peu près réalisé quand même un peu tout ce que je voulais. Hein. Bon, j'ai fait beaucoup d'escalade sportive, mais j'ai fait aussi des grandes voies. Et ça a été des moments inoubliables. Et surtout, de pouvoir faire ça en famille. C'est-à-dire, c'est vrai que dès le début, j'ai grimpé avec mon mari. Ça a toujours été mon compagnon de cordée préféré, mais après il y a nos deux fils qui sont aussi venus sur l'escalade.
Yann et Jonathan qui vous ont fait découvrir d'autres territoires d'ailleurs.
Oui, alors bien sûr, de toute façon, je veux dire, les enfants ils nous font évoluer vers d'autres choses, même si nous on a envie de leur donner notre passion et qu'ils fassent comme nous, mais eux ils font un peu comme nous, mais surtout comme ils ont envie. Donc ça c'est merveilleux, parce que les enfants c'est finalement notre plus beau cadeau, et surtout en vieillissant, on est sûr que bon, ben, ça a été pour nous le meilleur de notre vie. Et si en plus on a pu faire quand même de partager certaines ascensions ensemble, ça c'est extraordinaire.
Des enfants qui quand même vous font poser certaines questions avec la naissance de votre fils. Vous vous posez la question de votre manière de vivre, des choix que vous faites avec votre mari de partir régulièrement, des risques que vous prenez, et vous le dites, je me demande aussi comment Yann, parce que c'est votre aîné, hein, comment Yann vit notre absence. C'est un problème auquel je pense souvent et je ne veux pas donner de réponse. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la réponse?
Non, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas donner de réponse. On a vécu un peu comme on avait envie, mais bon, même si on a certains regrets, bon, de toute façon... Nos enfants, ils ont été baignés dans notre vie, dans notre manière de vivre. Et de toute façon, c'était difficile de faire autrement. Bon, on avait envie de partager avec mon mari notre passion à tous les deux. Donc, ça voulait dire qu'on partait quand même souvent ensemble. Et c'est ça qui était difficile, c'est de laisser un peu les enfants. Alors, plus les années ont passé et plus on avait envie, bon, en grandissant, c'était plus facile de les emmener. Mais quand est arrivé un deuxième enfant, bon ben là, on a peut-être eu plus envie de partager des choses plus tôt, quand il était encore plus petit, alors que peut-être avec l'aîné, c'était plus difficile à l'époque.
Dernière question, Martine Roland. Vous parlez dans votre livre de cette passion de la montagne qui vous anime. Vous parlez aussi de cette passion de la montagne qui se change dans le monde. Le balbutiement du tourisme commercial de l'Himalaya, avec ces photos que l'on a vues de cette clientèle et souvent novice, hein, qui se lance à la conquête de l'Himalaya. C'est quelque chose que vous regrettez?
Oui, bien sûr. Je trouve que c'est lamentable. Et disons que ça correspond pas du tout à la manière dont on a fait de l'alpinisme à notre époque, quand on est parti en expédition. Bon, on partait en expédition, le sommet il était réservé à deux expéditions pour tout l'été, donc on était tout seul sur la montagne. Alors que maintenant, disons, il y a des caravanes entières et ça permet à des gens qui n'ont pas le niveau de monter jusqu'en haut, mais le but, il n'est pas là de suivre une corde fixe pendant toute l'ascension. De toute façon, nous, on a toujours recherché quand même l'aventure. Et ça, maintenant, ben, les nouvelles formes de montagne qui sont faites par les agences, ben, elles enlèvent toute cette partie d'aventure d'obligation de se débrouiller tout seul, parce que tout est préparé d'avance. Et ça, c'est pas la montagne. La montagne, il faut que ça reste encore un domaine d'aventure, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt.
Merci beaucoup Martine Roland d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1. Je rappelle que vous avez écrit Première de cordée aux éditions Glénat, première femme guide de haute montagne en Europe, chevalier de l'Ordre national du Mérite. Voilà, je vous conseille vivement de découvrir ce livre, Première de cordée, avec donc la haut alpine. Martine Roland, merci à vous d'avoir été avec nous.
Merci.